CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan pour le mag de CFM de midi, ça va durer jusqu'à la demi. Aujourd'hui, c'est une émission particulière, c'est Parole d'élus. C'est la proposition qui est faite aux élus du territoire de venir répondre à quelques questions, en profiter pour communiquer sur leurs travaux en cours, leurs bilans, leurs perspectives, leurs propositions. Et c'est un exercice auquel s'est prêté Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin, aujourd'hui, tout de suite après Supertramp. Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin, pour Parole d'élus. Vous savez que cette émission permet aux élus de répondre à des questions, de faire eux-mêmes les questions, puisqu'après tout, ils ont rarement l'occasion de s'exprimer en radio, puisque la plupart de la communication... Si, il y a des communes qui ont des sites internet où ils mettent en ligne leur bulletin municipal, et finalement, quelqu'un qui s'intéresse à ça à l'autre bout du monde peut être au courant de ce qui fait l'actualité de la commune. Mais aujourd'hui, c'est en radio que vous allez répondre à quelques questions, monsieur le maire, si vous voulez bien. La semaine dernière, je vous posais la question sur cette cité qui redevient ancienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui passent dans Saint-Antonin ne vont pas d'un point à un autre en se dépêchant. Souvent, ils flânent, ils regardent. Alors, l'office de tourisme à venir aura-t-il ce guide particulier qui dira, là, vous avez la telle porte, là, telle placette, mais entre les deux, Si vous levez le nez, vous avez des étages à colombage, des fenêtres géminées, des explications.
Bonjour Monsieur Péricas. Effectivement, le premier projet d'abord de l'Office du Tourisme, c'est d'être déplacé. Pour l'instant, il est partie intégrante du bâtiment des Génovéfins, celui où se trouve la mairie, et nous en avions parlé la dernière fois, de cet immeuble qui va constituer la maison des services publics. On ne peut pas dire pour l'instant que l'Office du Tourisme soit particulièrement bien placé, dans la mesure où il faut emprunter des ruelles, redescendre vers la mairie. La lisibilité n'est pas parfaite.
C'est un jeu. Hein. Si vous trouvez l'Office du Tourisme, vous avez gagné.
Oui, mais en même temps, bon, comme vous disiez, ça permet de se balader. Mais la lecture, la visibilité, la lisibilité de cette Office du Tourisme n'était pas acceptable en état, d'autant que pour l'ensemble de ce bâtiment, nous avons choisi d'autres possibilités pour la salle dans laquelle il se trouve pour l'instant. Donc, après un échec dans la recherche d'un emplacement dans le centre-ville qui se situait vers la halle, nous avons finalement trouvé une autre possibilité, c'est au 10 rue de la Pélisserie, c'est-à-dire la rue principale qui mène de la place des Tilleuls jusqu'à la mairie. Nous avons trouvé un emplacement dans justement cet immeuble sur lequel l'école de Chaillot a pu faire un travail absolument remarquable. Donc, sur le plan de l'emplacement, effectivement, nous allons avoir un office du tourisme qui sera dans l'axe le plus fréquenté de Saint-Antonin, y compris d'ailleurs dans l'axe du marché dominical. Et ça, c'est très important. Donc, je pense et j'imagine que la fréquentation n'en sera que plus importante. Pour l'instant, il y a effectivement à Saint-Antonin des visites guidées qui s'organisent autant pour les visiteurs français que pour les visiteurs étrangers qui s'intéressent à l'histoire. Nous avons envisagé, dans un très bref, et nous l'avons d'ailleurs passé au dernier conseil municipal, nous avons un projet qui va se réaliser, qui consiste à la mise en place d'un chemin d'interprétation sur lequel vont être placés, alors à l'intérieur de Saint-Antonin, vont être placés trois panneaux généraux qui vont être situés sur la périphérie, et à l'intérieur même du village, il y aura 9 panneaux qui vont permettre aux gens, d'une part, de se situer dans le village, avec un livre, bien sûr, mais qui contiendront aussi de la technologie, comme par exemple les QR codes, qui permettront aux gens qui sont nantis des smartphones, etc., de cliquer dessus et d'avoir, en liaison directe avec l'Office du Tourisme, les informations nécessaires. Donc on met en même temps de la technologie sur ce village. Vous voyez qu'on n'est pas enfermé, on n'est pas dans une bulle à Saint-Antonin, on profite aussi de la technologie.
Bon, en même temps, ce qui est remarquable depuis quelques années, c'est le retour du pavé, c'est la réhabilitation des façades. C'est vrai que ça devient un lieu où on peut imaginer tourner un film de genre d'époque. Hein. C'est une petite tendance, ça.
Oui, c'est une tendance. Maintenant, il faut savoir quand même que la rénovation des ruelles et des placettes coûte excessivement cher. Et nous avons procédé à la réhabilitation d'une placette qui s'appelle la placette du Four-Neuf, ainsi que des ruelles adjacentes, les ruelles du Four-Neuf, et qui ont retrouvé dans un dédale de ruelles qui n'était plus fréquenté du tout une architecture qui correspond tout à fait à ce que l'on pouvait trouver autrefois. Et c'est vrai, mais vous avez raison à dire que ce village-là, oui, pourrait servir, comme il a déjà servi d'ailleurs, dans un film très important qui s'appelle Charlotte Gray, donc, dont les Saint-Antoninois ont souvenir, et rien n'empêche effectivement que cette cité, qui est une des rares d'ailleurs, et c'est pas moi qui le dis, c'est un des spécialistes justement de l'école de Chaillot, une des rares cités, vraies cités médiévales de la région Méditerranée.
En fait, finalement, le grand avantage de Saint-Antonin, comme d'autres bourgs de notre territoire, c'est d'avoir été abandonné par la spéculation pendant les périodes où on faisait des horreurs architecturales, et du coup on peut retrouver des choses laissées intactes. Bon, terrain de sport. Alors, quand on est maire d'une commune, on a forcément des associations dans sa commune qui sollicitent et qui disent « Mais vous vous rendez pas compte, on ne pourra jamais monter en première division si on n'a pas l'équipement qu'il faut. Et puis nos familles, quand elles viennent, où est-ce qu'elles s'assoient? Et puis les vestiaires, et puis les parkings, et puis quoi? Combien ça coûte ?»
Ah, combien ça coûte cher, forcément. Cher, forcément, comme tout ce que nous entreprenons. Mais là encore, on essaye de faire, comme je vous le disais précédemment, on essaye de faire uniquement avec nos possibilités. Oui, dans le cadre sportif, nous avons, mis à part la piscine dont vous parlez, nous avons aussi fait un terrain de foot supplémentaire, qui est le terrain de l'équipe 1, et qui permet justement d'avoir, de donner à cette équipe de foot un statut particulier. Encore une fois, rares sont les terrains de cette qualité dans le coin. Et alors, il y a une entente qui est l'île Saint-Antonin, tout le monde le sait pour ça. Et le terrain que nous avons mis à disposition, qui est sur les bords de la Bonnette, au Monge exactement, permet justement d'avoir un terrain qui corresponde à ce que les sportifs, même les sportifs amateurs, que sont les joueurs de foot, d'avoir quand même des terrains conséquents et sur lesquels ils peuvent pratiquer en toute sécurité.
C'est fait, ils sont contents.
Ah, c'est fait, bien sûr, c'est fait, ils sont contents. De la même manière, d'ailleurs, que nous avons procédé à la restructuration des terrains de tennis, deux terrains de tennis, qui eux aussi étaient relativement vieux, et dont il fallait refaire absolument les revêtements, parce que, il faut quand même comprendre que Saint-Antonin, c'est une ville qui a, alors je voudrais pas vous raconter l'histoire, plus de 60 associations, sûrement, dont beaucoup sont des associations sportives. Quand on a autant d'associations, il faut donner aussi à ces associations sportives la possibilité de pratiquer dans de bonnes conditions. Et si on laisse périr ou pourrir les terrains de sport, évidemment qu'à un moment ou un autre, ils ne pourront plus pratiquer de la bonne manière.
Bon, en même temps, Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin, comment peut-on vouloir une démarche de labellisation de Cita Slow, je ne sais pas si,
oui,
si je l'ai bien prononcé,
bien,
oui. En courant aussi vite?
Mais en fait, l'esprit de Cita Slow, c'est pas du tout. En fait, il faut pas faire une traduction littérale de ce que peut représenter Cita Slow. Cita Slow, c'est plutôt. On devrait le traduire plutôt sur la cité du bien vivre. Alors c'est une démarche qui a été qui est née en Italie, qui pour l'instant a 160 villes. La dernière en France, alors ça a commencé par Ségonzac. La dernière en France, je crois que c'est la Bastide d'Armagnac. C'est pas du tout l'idée réductrice de dire à l'intérieur de Cita Slow, on va plus rien faire, on va évoluer lentement. Non. Il y a d'autres labels pour ça, pour mettre en avant. Non. C'est envisager justement un développement harmonieux d'une ville, pas en la cloisonnant ou en l'enfermant dans une cloche qui éviterait tout développement. C'est au contraire de prendre en compte des critères de pollution, etc., qui permettent justement de faire ça. C'est une démarche de qualité urbaine d'abord. Il faut le comprendre, qui prend en compte les aspects de la ville, l'urbanisme, l'économie, l'environnement, la culture et le tourisme, les services à la personne, l'éducation, la promotion de la ville. Si vous voulez, on rentre quand même dans un processus là qui est acté comme étant futuriste, parce que on ne peut pas vivre comme avant et on ne peut pas prévoir que l'on vivra toujours comme on vit maintenant. Donc c'est une démarche à sensibilité différente qui ne cloisonne pas, encore une fois, le développement de Saint-Antonin.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rangs, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez eu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves, des douceurs éveillées. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? déchiffrer les affaires, les valises, dénoyauter les médias, les cerises, couper court à l'appel de la brise et livrer les secrets des banquises. Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous?
CFM, CFM, le MAG, tous les jours,
12h30.
Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin, vous nous parlez de site Aslo, une démarche labellisation, mais on pourrait faire la même chose finalement, se donner ses objectifs, ses enjeux, sans une démarche de labellisation. Est-ce que c'est parce que quand on enclenche une démarche comme ça, on sait qu'elle va durer plus longtemps que les hommes, peut-être, hein, et que les mandats, en se disant si tout le monde, si un consensus à l'instant T pour démarcher ça, peut-être qu'on le continuera.
Oui, bien sûr que c'est dans l'intention d'être pérenne. Puis, ça n'empêche pas quand même en même temps les autres labellisations. Par exemple, vous parliez pays et ville d'art et d'histoire. Mais on peut très bien avoir une superposition de labellisation. Celle-ci est une labellisation et elle est faite pour être pérenne. Mais si dans quelque temps les futurs élus ou les Saint-Antoninois considéraient que cette labellisation est plutôt un handicap qu'un avantage, rien ne les empêchera de se soustraire à cette labellisation et puis de ne pas la garder. Pour l'instant, il nous a semblé à nous élus, et puis on n'est pas que les élus, il nous a semblé que cette labellisation pouvait avoir des incidences favorables sur la vie en général et puis la vie touristique de Saint-Antonin. Donc nous nous y sommes plongés. D'ailleurs, je pense que nous devrions être retenus puisque notre dossier a été présenté il n'y a pas très longtemps justement à Orvieto, la ville qui a donné naissance à cette labellisation.
Alors vous évoquiez la labellisation pays d'art et d'histoire que le pays Midi-Quercy dépose là au premier trimestre pour une labellisation au bout d'un an, parce que ça va prendre ça. Mais vous rendez compte qu'à partir de 2014, quand on parle de pays d'art et d'histoire en pays Midi-Quercy, en réalité on remonte l'Aveyron à partir de d'Aigrepelisse et puis on arrive à Montricourt, on est dans les gorges, et que la halte, le bourg où on arrivera, et avec tous les critères que vous avez décrits, c'est forcément votre cité.
Exactement. Cette démarche-là, moi je la trouve particulièrement intéressante. Elle est initiée par le pays Midi-Quercy, vous avez raison de le dire, et elle prend en compte pas seulement un élément local, elle prend en compte une vérité, celle qu'il y a le long du cours de l'Aveyron. Et plusieurs cités, on parle de Montricourt, on parle de Saint-Antonin, bien sûr, si on s'écarte un petit peu, peine aussi, on peut le dire.
La chaîne des châteaux.
La chaîne des châteaux. Oui. Et moi je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est sûrement plus intéressant de le voir dans le cadre global d'un pays plutôt que de le voir localement. D'ailleurs, peut-être monter un dossier sur le plan local aurait nécessité une attention particulière, des développements particuliers. De le voir comme ça de manière globale, à mon sens, c'est une excellente chose.
Bon, mais ça veut dire qu'on va vraisemblablement et curieusement redécouvrir des vérités historiques, des justifications, par exemple, de la chaîne des châteaux sur des pitons rocheux. On va revivre finalement la polyorcétique qui a fait construire des cités avec des remparts imprenables et qui pourtant étaient prises. Est-ce que ça va remonter la bonnette?
Alors, je pense que dès l'instant où on parle de pays, on parle évidemment des cantons, etc. Et pourquoi pas remonter la bonnette, bien entendu, puisqu'on est compris. C'est les gorges de l'Aveyron, mais les cantons sont à l'intérieur. Et puis ce sont toutes les communautés de communes qui sont concernées, bien sûr. Donc on remontera, en même temps qu'on remontera les cours d'eau, on remontera les cours de l'histoire.
Ça veut dire quand même des responsabilités beaucoup plus grandes pour les personnels et les administrations des offices de tourisme. À partir du moment où on fait partie d'une labellisation pays d'art et d'histoire, il faut coordonner, je suppose, former les personnels à la connaissance historique, pas seulement architecturale, mais y compris des périodes de construction. En général, on l'a sur une fiche, on sait que là, elle a été commencée au XIIIe siècle. Bon, chez vous, c'est typique, le plus ancien bâtiment administratif, on a tendance à le dire, et puis Cazé-Viollet-le-Duc par-dessus, histoire de dire qu'il l'a protégé, ça va faire revivre des périodes des bâtiments.
Oui, exactement, c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Cette labellisation-là, qui vient d'un complément éventuellement de cette cité Asselot, cette labellisation-là permet de mettre en avant ce qui est pour l'instant une évidence et que tout le monde ne comprend pas forcément. Donc il a fallu évidemment que les techniciens du pays midi-quartier élaborent des dossiers assez conséquents qui prennent en compte justement tous ces critères. Et c'est une redécouverte en quelque sorte de ce qui existe déjà.
Mais petit à petit, vous sentez une prise de conscience des habitants d'appartenir finalement à un joyau historique, ne serait-ce que parce qu'ils ont eu le temps d'aller faire le tour ailleurs et de se dire « ah ben oui, c'est vrai ».
Ah mais ça, de manière générale, tout le monde est conscient, et à la fois d'habiter dans un secteur particulièrement riche historiquement, mais d'habiter aussi un secteur qui naturellement, et je parle de la naturellement, quand je parle de nature, de l'environnement lui-même, on la certitude, oui, ils ne se posent même pas la question. Ils sont certains d'habiter dans un endroit absolument extraordinaire.
Alors, vous avez mis le focus sur le centre-bourg parce que il était quand même à traiter, il y avait quand même pas mal de ruines, vous avez eu une politique de, finalement, d'expropriation de gens qui n'étaient plus propriétaires, parce que des choses qui menaçaient ruines dont on ne trouvait personne qui avait payé des impôts dessus, vous avez fait la procédure légale histoire de dire, ben, on va s'en occuper. Donc, ça tombe pas sur la tête des administrés quand ça se casse la figure. Mais autour, le périph.
Ben, le périph, c'est pareil, hein, le périph. Bien sûr qu'on a une attention plus particulière à l'intérieur.
Je me moque, pardon, le boulevard.
Mais oui, je comprends bien. La périphérie de Saint-Antonin, certains humoristes disaient la banlieue de Saint-Antonin. Non, la périphérie de Saint-Antonin. Mais, non, alors, il y a deux raisons à cela. D'abord parce que, effectivement, il y a soit des terrains, soit des habitations qui sont laissées à l'abandon et dont on ne connaît plus les propriétaires et qui nécessitent, bien sûr, un réinvestissement. Et ce serait dommage que la commune ne profite pas de ce que la loi lui permet de faire. Et dans ce sens, nous sommes assez actifs. On ne peut pas résoudre quand même tout à fait les problèmes, parce qu'il y a effectivement des maisons ou des terrains dont nous connaissons les propriétaires, mais qui sont particulièrement réticents.
Je ne veux pas le savoir, moi. Je suis chez moi, je ne veux pas le savoir.
Voilà. Alors, il y a aussi le danger, par exemple, dans le centre-bourg, que créent ces maisons qui sont partiellement en ruine ou qui menacent ruine, dans lequel cas, bien sûr, nous avons la possibilité d'intervenir et alors soit de les mettre en demeure, de mettre tout ça, soit après d'engager nous-mêmes des actions qui, de toute façon, seront à supporter par les propriétaires qui ne veulent pas entendre quel est leur devoir en lien directement avec les propriétés qu'ils possèdent.
C'est un drôle d'état d'esprit, ça, quand même, être propriétaire de quelque chose et pas vouloir entendre que ça amoche.
Et alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Généralement, les plus gros problèmes se trouvent dans les problèmes d'indivision. Et c'est un problème majeur. Et ils peuvent également se trouver dans des raisons financières. Lorsque, depuis deux ou trois générations, on possède une maison et qui est abandonnée depuis 50 ans, 60 ans, les travaux qui restent à faire sont, pour certains, incompatibles avec leurs possibilités et leurs capacités financières. Donc, on essaie quand même, par la négociation, de trouver des solutions qui amènent à la restauration de ces maisons, sans en passer, bien sûr, parce que la loi nous autorise.
Et la restructuration du boulevard, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, restructuration du boulevard, bon, vous savez que l'ancienne municipalité avait déjà engagé des travaux très importants sur le boulevard, on va dire le boulevard qui ceinture la cité historique. Il reste encore pas mal de travail. Depuis le pont, jusque chez le garage Renault. Et donc, cette restructuration-là est absolument nécessaire, parce qu'il y a, on est sur la départementale, qu'il y passe quand même pas mal de voitures, de poids lourds, etc. Donc, il nous faut revoir ça. Il y a des problèmes de sécurité.
On est en bord de bonnette avec des platanes, dont certaines sont malades.
Alors, on est en bord de bonnette avec des platanes. Alors, ça demande quand même une attention particulière. Et de toute façon, on ne pourra pas passer outre. Parce que, on le voit bien, ça ne correspond plus à la circulation et à la sécurité. Ces platanes dont vous parlez vont poser à un moment ou à un autre des écueils. Donc, notre idée, si nous pouvons financièrement, encore une fois, parce que ça, c'est la condition sine qua non, nous allons, comme dans notre projet le prévoyait, restructurer depuis le pont jusque à la caserne des pompiers. Alors ce sera une restructuration qui sera sûrement plus légère que qui serait plus légère que celle sur le boulevard Bénet, mais qui est nécessaire. Ensuite, et ça ce sera un problème pour un autre mandat et pour ceux qui seraient à la tête de la commune, c'est de prendre depuis les pompiers jusque au garage Renault. Et là par contre, c'est un très très gros chantier qu'il y aura lieu de mettre en évidence, parce qu'encore une fois, il faudra trouver entre la modernité et la nécessité historique, entre ce que les anciens nous ont laissé et ce qu'il faut redécouvrir aujourd'hui, trouver une solution intermédiaire et consensuelle.
Oui, ça c'est toujours votre démarche, parce que sinon un technicien sur plan, il dirait il n'y a qu'à faire un deuxième pont.
Oui, on peut tout imaginer, bien sûr, mais on pourrait imaginer un deuxième pont sur qui traverserait l'Aveyron. Mais vous allez me dire si le contexte actuel permettrait à n'importe quelle commune d'envisager un tel travail.
Gérard Hagan, je vous remercie.
Merci à vous.
Le mag du quartier Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao, passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.